Radio Déclic.
Encourager la fraternité. C'est pas quelque chose qu'on peut vivre chaque jour.
Radio Déclic. Radio Déclic. Radio
Déclic. On aime découvrir d'autres cultures.
Ce sont des messages qu'on fait passer.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle émission Radio Déclic. Aujourd'hui, on va parler performance, effort, détermination, mais pas seulement, puisqu'il va aussi s'agir d'émotions et d'émotions fortes, avec des champions qui sont les invités du jour, des champions made in 9-3. La Seine-Saint-Denis, ce n'est pas que les cités ghettos, le chômage ou encore la délinquance. Et non, nos villes et nos quartiers regorgent de talents et nous en sommes fiers. Alors si vous êtes prêts, basket au pied, chrono en main, ça va être sport. À vos marques, prêt, jingle.
Radio Déclic 106.3. Radio Déclic 106.3.
À l'instant, aujourd'hui, on parle sport et pas avec n'importe qui, puisque nous ouvrons le bal avec deux grands champions, deux générations du Muay Thai. Sam Berandou est avec moi, accompagné de Jimmy Koulibaly. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous.
Merci beaucoup d'être avec nous. On va commencer par le coach, qui a aussi été un grand combattant. Comment est-ce qu'on passe de combattant à coach? Et comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer le Lumpini Club?
Alors, tout a commencé dans les années 78, quand j'ai découvert le Muay Thai. Parce que j'ai commencé dans les années 78, même si je l'ai connu un petit peu plus tôt. Après une carrière, mouvementée, avec pas mal de challenges, pas mal de déplacements internationaux, j'étais suivi par beaucoup de jeunes de Saint-Denis, parce que j'ai de la famille à Saint-Denis. Parce que moi, je suis au départ issu du 78, avant de venir atterrir dans le 93. Et donc, ça s'est venu naturellement. Dans les années 85, on m'a dit, voilà, on aimerait bien faire ce que tu pratiques. On te soutient, ça nous plaît. Voilà, pourquoi tu n'ouvres pas un club à Saint-Denis?
On se souvient quand même qu'à l'époque où vous pratiquiez, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'était le sport dont on disait, oulala, c'est très violent, c'est très brutal. Pourquoi est-ce que vous êtes allé vers le Muay Thai? En plus, c'était vraiment le règne des Thaïlandais à l'époque. Hein.
Tout à fait. Moi, j'étais déjà très sportif étant jeune et j'ai démarré par le judo, ensuite le karaté, la boxe anglaise. Et plus naturellement, quand j'ai découvert le Muay Thai, ça regroupait un petit peu toutes ces disciplines. Parce que la boxe thaï, on appelle ça la boxe aux 8 armes, parce qu'on peut utiliser les percussions de poing, la boxe anglaise, de pied, qui ressemble au karaté. Et en plus, il y a les coups de genoux et les coups de coude. Et la particularité du Muay Thai, c'est qu'on peut également pratiquer un espèce de corps à corps debout. On peut saisir et projeter, mais il n'y a plus rien au sol.
Il y a différentes possibilités de mettre l'adversaire hors jeu. Alors, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec l'un de vos élèves, et pas n'importe lequel. Il s'agit de Jimmy Koulibaly, je le disais tout à l'heure. Merci d'être avec nous, Jimmy.
Merci à vous de m'avoir invité.
Alors, que d'étapes parcourues depuis vos débuts. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous êtes arrivé à la salle d'entraînement?
Oui, je me souviens, c'était en 1997, je pense que la première fois où j'ai fait mon premier cours de Muay Thai, ça m'a plu, ça m'a plu directement. Et puis depuis ce temps-là, j'ai pas lâché, j'ai continué, j'ai persévéré jusqu'à aujourd'hui.
Est-ce qu'à l'époque, il y avait des Français auxquels vous vouliez ressembler, ou est-ce que vous étiez déjà en Thaïlande?
Non, il y avait quelques Français qui étaient déjà dans le circuit international, qui passaient souvent sur les chaînes de télé, notamment Danny Bill qui est du 9-3 aussi. Et puis depuis, franchement, ça m'a plu, ça m'a accroché. Quoi.
C'est vrai que l'époque Danny Bill, ou même vous, Sam Berandou, vous aviez des styles bien particuliers, en tout cas des styles qui parlaient quand même aux jeunes.
Oui, enfin, nous, on l'avait découvert. C'est-à-dire que je dirais, le style qu'on avait, c'était surtout qu'on était des combattants. Donc, on était beaucoup moins technique, je dirais, parce que ça a beaucoup évolué techniquement, et tant mieux. Mais par contre, on ne lâchait rien. À l'époque, c'était les guerriers, parce que les combats allaient souvent à la limite, jusqu'au bout, et personne ne voulait lâcher un pouce de terrain.
Et quel a été le combat le plus dur? Vous en avez eu vraiment pas mal. Est-ce que vous avez un souvenir qui a été difficile en tant que combattant?
Il y en a eu plusieurs. Mais les combats qui m'ont marqué, je dirais le plus, c'était en Asie. J'ai eu la chance de boxer deux fois à Hong Kong. face à l'époque où Thaïlandais qui était seulement numéro 3 ou numéro 4, hein, fallait savoir, hein, parce qu'à l'époque, déjà les numéro 3 ou les numéro 4 étaient très très durs. Donc à l'époque à Hong Kong, j'ai un souvenir parce que grâce au cachet de ce combat-là, j'ai pu d'ailleurs rester un mois à Bangkok dans un camp. Mais par contre, la première semaine, j'ai rien pu faire. J'ai pas pu marcher, j'arrivais pas à respirer parce que le Thaïlandais que j'avais rencontré m'avait laminé les côtes et je pouvais plus mettre mes chaussures tellement j'avais les chevilles gonflées. Ça m'a marqué.
Je peux confirmer pour avoir suivi certains combattants et certains événements. En général, vous ressortez, vous marchez pas vraiment droit. Vous avez beaucoup de mal au niveau des tibias à vous remettre. Et comment on décide d'y retourner? Parce que j'ai envie de dire, faut être un peu sado.
Il est vrai que le soir après le combat, si vous demandez à un boxeur demain tu reviens à la salle, moi après ce combat-là, j'avais dit c'est bon, j'ai eu ma dose, j'arrête. Et après, une semaine après, quand on commence à... Le corps humain est bien fait et la mémoire également, on oublie un petit peu la douleur, heureusement. Et une semaine après, on y retourne parce qu'on est des passionnés et qu'on a envie d'y retourner.
Alors, Jimmy, est-ce que vous pensiez, lorsque vous avez ouvert cette porte de salle d'entraînement en 97, que vous alliez devenir le champion que vous êtes aujourd'hui? On en parlait tout à l'heure. Ces deux, trois dernières années ont été vraiment fulgurantes, même s'il y a énormément de travail derrière.
Non, au début, c'était juste pour m'entraîner, pour garder la forme. Et après, vu que je commençais à prendre les bases plus rapidement que les autres, les entraîneurs, les coachs, ils se sont mis derrière moi, ils ne m'ont pas lâché. Et puis, petit à petit, avec la patience... J'ai vu que je pouvais faire quelque chose et puis j'ai pu avoir tous les titres qu'il fallait.
Vous avez combattu en Thaïlande.
Oui, j'ai boxé en Thaïlande.
Là aussi, quand vous avez débuté, est-ce que c'était un objectif? Est-ce que c'est un rêve pour un combattant français? Parce qu'effectivement, oui, on n'a pas les mêmes structures, même si on a des clubs, on en parlait tout à l'heure, qui sont très très bien organisés. Est-ce que c'est un objectif pour un Akmoué?
Oui, bien sûr. Pour un Akmoué, boxer en Thaïlande, c'est un rêve. C'est de la boxe, ça vient le Muay Thai. Faut vraiment tester pour voir qu'est-ce que c'est. J'ai boxé là-bas pour l'anniversaire du roi face à un Thaïlandais qui se prénomme Orono. Ça s'est bien passé. Je suis parti avec l'équipe de France. C'était en 2007. Et puis voilà.
L'anniversaire du roi, ça représente quoi quand on arrive? Parce que je vais quand même dire, vous allez nous expliquer comment c'est. Est-ce que nous, ici, on a l'habitude, on va dans une salle, que ce soit là, le Carpentier ou ailleurs, il y a les gradins, il y a les rings, il y a les combats. Mais là-bas, je crois que c'est pas du tout la même ambiance.
Non, c'est pas du tout la même ambiance. C'est en plein air, il y a tout le monde est invité. C'est franchement un gros truc. Hein.
C'est vraiment culturel en Thaïlande. Est-ce que, Sam, il y a une grosse, grosse différence de niveau entre les Thaïlandais et les Français?
Techniquement, oui. Techniquement, oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Thaïlandais démarrent très tôt. Les écoles de Muay Thai, ça démarre à 4 ans, 5 ans. Et la philosophie n'est pas la même. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que nous, ici, c'est la boxe, ça reste un loisir. Eux démarrent, ils en ont besoin pour vivre. Quand ils inscrivent un enfant, ils le confient à un camp, parce que c'est le camp d'entraînement, ils le confient au maître pour en faire quelque chose. Eh ben cet enfant va boxer progressivement, va s'entraîner toute sa vie pour après subvenir aux besoins de la famille. Donc c'est pas le même but que nous.
Et vous avez pas du coup, est-ce que vous diriez qu'on n'a pas la même rage de vaincre entre le combattant thaïlandais qui monte sur le ring et par exemple Jimmy?
Non, c'est pas une question de rage. La rage, je pense que on est à peu près à niveau égal. Mais le but n'est pas le même. Eux, c'est vraiment pour vivre. C'est pour survivre. D'ailleurs, quand ils boxent, là-bas en Thaïlande, ils boxent toutes les semaines. Et quand ils boxent, si vous regardez bien comment boxe un Thaïlandais, il ne frappe pas dans les jambes. Très rare. Pourtant, on a le droit en Muay Thai. Pourquoi? C'est tout simple. Parce qu'ils font attention de ne pas se blesser. Parce que dès qu'ils se blessent, pour eux, c'est un manque à gagner pour la semaine d'après. Donc, ils travaillent au-dessus de la ceinture. C'est là où on se blesse le moins. Alors qu'en France, ça part de tous les côtés.
Bon, je vais pas vous demander de nous donner les stratégies de combat et les petites techniques de Sam Berandou, mais est-ce que vous vous souvenez de la rencontre avec Jimmy Coulibaly? Est-ce que vous pressentiez le champion en herbe?
Bon, on ne pressent pas tout de suite. Jimmy est venu, comme beaucoup d'autres à la salle, très tôt. Donc lui, il devait avoir, je pense, autour de 12 ans, il me semble, 12-13 ans. Ensuite, on repère assez vite les jeunes qui sont un peu plus doués que d'autres. Comme je vous ai dit, et je le redis aussi, un enfant doué ne fait pas obligatoirement un champion. Parce que doué, c'est bien, mais après, il faut se donner les moyens. Il faut avoir envie de se faire mal. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Donc j'en ai eu des jeunes qui étaient très doués pour la boxe, et ils voyaient venir, ils avaient le coup d'œil, comme on dit, mais ils ne sont pas été loin parce qu'ils n'avaient pas envie de souffrir. Et puis la boxe, l'entraînement, si on veut vraiment arriver à gravir les échelons, devenir champion de France, champion d'Europe et la consécration mondiale, il faut vraiment avoir envie de se faire mal et se donner les moyens.
Jimmy, pourquoi vous avez envie de vous faire mal et qu'est-ce qui fait que vous y retournez?
Je ne sais pas comment expliquer ça, mais bon...
À quoi ressemble une préparation pour, par exemple, vous allez sans doute combattre au mois de mai, mais on va vous suivre, on verra. Mais à quoi ressemble une préparation, peu importe l'adversaire, j'imagine d'ailleurs.
Ça base de 2 entraînements par jour, 6 jours sur 7. Le matin, c'est un peu plus cardio, et le soir, c'est technique à la salle avec les coachs.
Est-ce que c'est important pour vous d'être resté au Lampigny avec Sam et d'être suivi par
oui,
un champion aussi?
C'est important, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai commencé ici, je finirai là-bas et puis c'est tout. On s'entend bien et puis on avance tous ensemble.
Sam, est-ce que, je pense que là vous avez un champion, mais que vous avez eu beaucoup de boxeurs et de combattants entre les mains, en tout cas au club, qu'est-ce qui fait que vous enseignez avec la même passion, que ce soit, j'imagine, des loisirs ou des athlètes de haut niveau?
Je pense que c'est parce qu'à la base, je suis éducateur. Je suis éducateur avant tout. Même si quand j'ai commencé à boxer, j'étais plus un entraîneur, parce que j'étais un combattant. Donc j'ai passé mes diplômes d'ailleurs après, par la suite, et c'est là que je suis devenu pleinement, je dirais, éducateur. Parce qu'après, c'est une autre pédagogie. Avec les combattants, les semi-pros et ceux qui sont compétiteurs, on adapte la pédagogie, contrairement à aux enfants au loisir, qu'on peut entraîner. Et là, c'est encore autre chose. On leur apprend plutôt le respect d'eux-mêmes, le respect des autres. Je veux dire, il y a tout un travail éducatif qui est fait à travers ce sport qui est quand même un sport contact. Faut pas l'oublier. C'est un sport qui demande quand même de la pugnacité, de la résistance, une bonne capacité cardiaque qu'on travaille avec le cardio, enfin, en faisant du footing, à la salle. Mais c'est un travail de longue haleine. Et ensuite, avec les compétiteurs et puis les compétiteurs de haut niveau, on est obligé de mettre les bouchées doubles, Parce que là, il faut aller un peu plus au contact. On les fait tourner, ce qu'on appelle le sparring. D'ailleurs, on fait aussi appel à des amis qui sont en boxe anglaise, parce qu'on a une préparation aussi en boxe anglaise, parce qu'il y a de la boxe.
Vous évoquiez tout à l'heure un autre champion, Souleymane Baye.
Oui, tout à fait, qui nous a filé un très gros coup de main, parce que la boxe anglaise, ça reste quand même la boxe de base. C'est le noblard, c'est la base de toutes les autres boxes. Les autres boxe pieds-poings sont venus ensuite. Bien que le Muay Thai, quand même, date de 3-4 siècles. Il faut le savoir. Mais la boxe anglaise, ça reste la base.
Donc vous travaillez avec ceux qui représentent la base.
Oui, j'ai beaucoup d'amis en boxe anglaise.
Moi, je suis sûre que vous avez beaucoup d'amis dans toutes les disciplines, à mon avis, de sport de combat, justement. Vous qui avez voyagé l'un et l'autre à travers le monde pour combattre, quel regard vous pensez qu'on porte sur le Muay Thai en France? Vous parliez du noblard. On sait que le noblard, c'est une discipline olympique. Ce n'est pas le cas du Muay Thai. Comment vous l'expliquez et quel regard vous portez, vous pensez qu'on porte sur votre sport en France?
Alors, vous parliez de noblard, tout à fait. Moi, je pense que le Muay Thai est aussi un art. Un art martial de combat, certes, mais ça reste aussi un art. Pourquoi il n'est pas olympique? Parce que c'est très difficile, c'est complexe de rentrer aux Jeux Olympiques. Il y a beaucoup de disciplines qui aimeraient y être. Il y a des disciplines qui sont, on se demande pourquoi. Mais voilà, parce que théoriquement, les Jeux Olympiques, c'est une discipline qui doit être dans beaucoup de pays, énormément de pays. Il y a des sports, il y en a un qui me vient tout de suite à la tête. Un truc qui s'appelle le curling, qui est olympique. Mais il doit y avoir 3, 4, 5 peut-être pays dans le monde.
C'est vrai que les Jeux sont l'événement planétaire sportif et qu'on attend effectivement des disciplines, qu'elles soient, à mon avis, représentées dans un maximum de pays. Le Muay Thai, Jimmy, quel souvenir vous avez de la Thaïlande et comment vous pensez qu'il est perçu chez nous en France?
Comparé à la France, ici, c'est un passe-temps. Après, si on peut, on peut vivre de ça et s'entraîner, ben, on fait avec, sinon voilà.
Mais vous avez l'impression que vous avez les mêmes armes que les Thaïlandais, par exemple ? Parce que l'idée, c'est quand même, la nation numéro un, c'est quand même de les concurrencer. Est-ce qu'on a les mêmes armes ?
On a les mêmes armes, mais on ne s'entraîne pas de la même façon.
Sam, est-ce que...
Le problème qui est, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ce sont des professionnels. Ils peuvent consacrer plus de temps. Jimmy l'a dit, effectivement, nous avons les mêmes armes. Deux bras, deux jambes, un corps, on est constitués comme eux. Seulement, on n'a pas le même temps. Travail. Parce que nous, il faut qu'on travaille à côté. Les gens ont besoin pour vivre de travailler.
Et que les Thaïlandais sont payés pour combattre et donc ils combattent au maximum, on l'a compris. Avant de nous quitter, j'aimerais juste dire deux mots sur le club, donc le Lamphini Club. Dites-nous un petit peu, il y a des jeunes avec nous aujourd'hui, si on souhaite pratiquer, comment ça se passe et est-ce que vous ouvrez vos portes à tout le monde ?
Ah ben nous, on prend les jeunes enfants à partir de 8 ans, et ensuite il n'y a pas de limite, hein, jusqu'à 77 ans.
Là, je vois qu'il y a des filles au premier rang avec nous à la médiathèque.
On prend aussi bien les garçons, les filles, les handicapés, on prend tout le monde. Le Muay Thai est ouvert à tous, il suffit juste d'avoir envie. En plus, on a des horaires, on peut s'entraîner pratiquement toute la semaine, lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi matin sur samedi.
Jimmy, on va se quitter et je vais vous libérer dans quelques instants. Si vous aviez un petit mot à transmettre à tous ceux qui vous suivent, qui vous supportent, aux enfants qui sont avec nous aujourd'hui et qui sont venus aussi vous soutenir.
Je voudrais passer un message à tous ceux qui me soutiennent, à mes sponsors, à Monsieur Lenoir, dont Djibril Cissé, la marque appartient à Djibril Cissé. Et puis aux jeunes, s'ils ont un rêve, il faut s'accrocher jusqu'au bout et pas lâcher.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. On vous retrouve très prochainement, j'en suis certaine, sur l'antenne de Radio Déclic. Ne bougez surtout pas, puisque dans quelques instants, on va continuer à parler boxe et ce sera avec Nordine Oubali et Souleymane Sissoko. On parlera des Jeux Olympiques, mais pas seulement. En attendant, c'est le choix musical de Jimmy Koulibaly. C'est Oxmo Puccino. C'est parti.
Chers auditeurs, nous avons le plaisir d'accueillir Oxmo Puccino, qui nous présente sa nouvelle chanson.
T'es comme une bougie qu'on a oublié d'éteindre dans une chambre vide. Tu brilles entouré de gens sombres voulant souffler. Celui qui a le moins de joues est loin du chouchou. Celui qu'on fait chier, le cœur meurtri, meurtrière est ta jalousie. L'enfant seul se méfie de tout le monde, pas par choix. Mais dépit pense qu'en guise d'amis son ombre suffit. Une solitude qui suit jusque dans le sexe, mon texte coupe. L'enfant seul en deux espèces, ceux qui baisent à l'excès mais souhaiteraient se fixer à une femme plutôt qu'à mille fesses quand l'autre sort écoute. Souvent la même chanson dans le poste et porte le deuil d'une relation morte et reste humide. La tête baissée laisse le cœur sur l'estomac, l'estomac sur les genoux, ma tristesse n'a d'égal que le coup de gueule muet de l'enfant seul que nul ne calcule. T'es l'enfant seul, je sais que c'est toi. Perdu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je sais que c'est toi. Perdu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je sais que c'est toi. Perdu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi. Perdu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Mes mots s'emboîtent, les gens s'y voient comme dans une flaque d'eau. Ça leur envoie un triste reflet, mais est-ce ma faute? T'es l'enfant seul, c'est pas facile, on se comprend, peu le savent. Que je le sache, ça te surprend. Il mate par la vitre, la solitude qu'il mine fait passer la quinine pour un sucre. Faut être lucide, il faut qu'on se libère, disent-ils, ils n'en discutent pas. Confondent la rime et l'acte, la fuite et le suicide impact. Une promo sans traque, pas trop de mots. Nobody n'a capté le sage souhait, l'envie de se laisser par le coup pendu. Pour punir les parents qui pour aimer l'enfant ont trop attendu. Car si l'amour est une course, l'enfant naît, c'est le départ en tête. L'embêtement qu'en passe-temps on fait des parents bêtes. Maîtrise dans 6 ans, sentiment en ciment. Sinon dans 6 ans, on me retrouve ciseaux dans le crâne, dans le sang gisant. T'es l'enfant seul, dis-moi que c'est toi. Perdu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, dis-moi que c'est toi. Perdu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, dis-moi que c'est toi. Perdu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi. Perdu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance.
De De retour sur le 106.3 Radio Déclic et Fréquence Paris Pluriel consacre l'émission aux champions du département. On poursuit avec Nordine Noubali, multiple champion de France, quart de finaliste aux JO de Pékin et aux JO de Londres. Et Souleymane Sissoko, multiple champion de France également, plus jeune champion de France d'ailleurs de mémoire en 2011 et champion du monde universitaire. Messieurs, bonjour et bienvenue sur le 106.3.
Bonjour.
Alors je le disais, vous êtes tous les deux pratiquants du noble art. On en parlait il y a quelques instants avec Sam Berandou et Jimmy Koulibaly qui, eux, sont venus représenter le Muay Thai. Comment est-ce qu'on décide de pratiquer la boxe anglaise et pourquoi ce sport ?
On pratique ce sport déjà par passion et par envie, déjà dans un premier temps. Et après, on vient dans ce sport. Moi, je suis venu par rapport à mes grands frères. Ils étaient dans cette discipline et ça m'a beaucoup plu. Et j'ai retrouvé un équilibre. Donc c'est ce qui a fait que j'ai continué, j'ai persévéré sur cette voie.
Toi Nordine, d'ailleurs tu voulais faire du pied-point à l'époque puisque ton frère faisait du Muay Thai et finalement tu es venu au noble art.
C'est vrai, mon premier amour était la boxe thaï, la boxe pied-point. J'étais vraiment fan de boxe thaï mais j'avais 8 ans, à cette époque on n'acceptait pas les jeunes. Donc je me suis dirigé vers la boxe anglaise, c'est mon grand frère Ali qui m'a mis dans la boxe anglaise, comme il faisait un peu de boxe anglaise pour améliorer son pied-point. Et il m'a mis dans la boxe anglaise, au début je suis parti là-bas sans trop aimer, mais après avec le temps j'ai aimé. Et c'est ce qui fait ce que j'en suis aujourd'hui, j'étais en équipe de France et après...
Deux Olympiades, et on va en parler dans quelques instants. Souleymane, tu te souviens de la première fois que tu as mis les gants ?
Moi, c'était à 14 ans, donc c'était vraiment par hasard. Je voulais faire un sport et j'avais un copain de quartier qui s'appelle Rudy qui faisait déjà de la boxe anglaise. Donc c'est là où j'ai découvert la boxe anglaise et ça m'a tout de suite plu parce que c'était un travail personnel. Il fallait toujours travailler. On était tout seul sur le ring, donc c'était à moi de bosser, etc. Et au bout d'une année, j'ai fait champion de France. Derrière ça, ça m'a plu avec les convocations en équipe de France, etc. Et c'est parti de là.
Comment est-ce que vous perceviez en fait la pratique en équipe de France ? Est-ce que c'était pour vous une fierté ? Est-ce que c'était plus de déconnecter avec le quartier, la famille ? Pourquoi est-ce que ça vous plaisait d'être en équipe de France ?
Lorsque j'ai porté la première fois le maillot tricolore, ça m'a fait vraiment super plaisir parce que pour moi, l'équipe de France, c'était quelque chose de... Ouais, c'était loin, etc. Je me disais, au bout d'une année, tu arrives à intégrer l'équipe de France cadet. C'était une fierté. Et derrière ça, de pouvoir représenter le 19e arrondissement au sein de cette équipe de France, bah, c'était un réel plaisir.
Nordine, là, vous êtes passé professionnel, donc. La boxe amateur, ça a été de nombreuses années, 8 ou 10 ans, je crois.
On va dire plus de 10 ans. Donc
Quel regard on porte sur une carrière aussi longue, même si vous êtes jeune ?
Je regarde des bons souvenirs. Il y a eu des bons moments et des mauvais, mais on garde que les bons moments. Et les bons moments font partie des souvenirs, donc c'est vrai que c'est long et en même temps quand on y est dedans on voit pas le temps passer parce qu'on a des objectifs et ce qui fait passer le temps c'est qu'on a des objectifs et notamment vouloir aller aux Jeux Olympiques pour aller décrocher une médaille, c'est ce qui nous motive et qui nous aide à nous surpasser.
Alors on entendra tout à l'heure le champion du monde de lutte, Mélona Noumonvi, qui va tenter d'aller à sa 4e Olympiade, ce qui est historique pour un athlète français. Nordine, 2 Olympiades, je le disais, Pékin, vous perdez contre le champion olympique, et Londres, où vous perdez contre l'Irlandais, de manière discutable. Mais quand même, comment est-ce que vous avez vécu la compétition, qui est l'événement sportif planétaire le plus regardé au monde ?
C'est un rêve d'enfant. Je regardais les Jeux Olympiques à la télé, donc je me suis donné cet objectif et je l'ai atteint parce que j'étais à 2 reprises. Aller une fois aux Jeux Olympiques, c'est grandiose, mais aller 2 fois, c'est presque inespéré parce que surtout en boxe, les qualifications sont très dures à acquérir. Donc aller 2 fois aux Jeux Olympiques, c'est une fierté pour moi.
Vous avez débuté l'un et l'autre dans vos clubs respectifs, d'abord dans le 19e arrondissement pour Souleymane Sissoko, Nordine Hénin-Beaumont. Ensuite, vous avez rejoint la Seine-Saint-Denis, le top rank de Bagnolet, donc le 93. Est-ce que représenter un département, c'est important ? Est-ce que vous avez l'impression d'être ambassadeur du sport ?
Pour ma part, oui, étant donné que je représente le 93, je suis aussi ambassadeur des sports avec la région Île-de-France, donc où je véhicule l'image du sportif de haut niveau dans les écoles, dans les lycées et collèges. Donc oui, c'est une fierté aussi, et donner aussi l'exemple aux jeunes que tout est possible.
Souleymane, très vite champion de France, on le disait tout à l'heure. Et puis, chez les seniors, plus jeunes champions de France, quels souvenirs on garde d'un combat comme celui-ci ?
C'était un très, 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 très beau souvenir, parce que j'avais perdu l'année d'avant face à Radwan Farhani. Que je retrouvais en finale. Donc, j'avais vraiment envie de remporter ce titre et montrer que j'étais présent. Peut-être, certes, jeune, mais présent. Et puis voilà, donc ça m'a tout de suite élancé ensuite.
Vous aviez 19 ans.
Oui, je venais d'avoir 19 ans. Donc derrière, ça m'a permis de prendre confiance en moi, de rafler pas mal de médailles au niveau international. Et jusque-là, c'est ça qui m'a vraiment élancé, quoi.
Qu'est-ce que vous apporte ? Vous entraînez à l'INSEP, donc Nordine, on l'a dit tout à l'heure, pour les deux Olympiades, préparation à l'INSEP, mais vous vous entraînez aussi dans vos clubs, donc dans votre club respectif. Pourquoi est-ce que c'est important de rester attaché à son club ?
C'est super important de rester attaché à son club, parce qu'à l'INSEP, on travaille beaucoup de façon générale, etc. Et lorsque j'arrive au club, surtout avec Ali Oubali, je travaille de manière spécifique, on individualise le travail. Donc là, on fait beaucoup de travail vidéo par rapport à mes adversaires que je peux rencontrer, etc. Et donc là, ils ciblent vraiment l'entraînement sur moi. Tandis qu'à l'INSEP, l'entraînement, il est ciblé sur tous les boxeurs, etc. Donc on ne prend pas vraiment le temps d'individualiser, même si ils essayent d'individualiser, mais ce n'est pas pareil qu'au club, quoi.
Est-ce qu'on pense aux Jeux Olympiques ?
Ah oui,
ils approchent, ce sera Rio dans quelques mois.
On pense aux Jeux Olympiques, on pense aussi à la qualif olympique, parce que, comme le disait tout à l'heure Nordine, c'est pas évident de se qualifier en boxe anglaise. C'est super dur, donc là, on travaille d'arrache-pied pour pouvoir aller chercher cette qualif et derrière, aller ramener une belle médaille des Jeux Olympiques.
Nordine, vous avez connu donc les Jeux Olympiques et vous avez décidé, après Londres, une année off, de passer pro. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de continuer ? Parce que j'imagine que vous êtes quand même posé pas mal de questions après la défaite en quart de finale face à l'Irlandais.
Oui, c'est vrai. Donc, après les Jeux Olympiques, j'ai pris, on va dire, une petite année sympathique pour me soigner, parce que j'ai boxé blessé pendant plusieurs mois. Donc, j'ai dû me faire opérer de la main gauche, étant donné que j'avais un arrachement osseux. Donc, et ça m'a permis aussi de réfléchir à mon avenir sportif. Donc, je suis passé professionnel pour la simple bonne raison que je voulais savoir ce que c'est. Comme j'ai commencé par la boxe éducative, j'ai boxé en cadet, junior, je suis rentré en équipe de France, j'ai connu le très haut niveau et je voulais aussi connaître aussi la boxe professionnelle et savoir voilà, quelles sont mes qualités et ce que je peux donner aussi chez les professionnels. Donc, c'est vraiment pour ne pas avoir de regrets. Et donc, vaut mieux pas avoir de regrets. Et faire vraiment ce qu'il y a à faire. Donc, je me suis donné les moyens et aujourd'hui, ça se passe plutôt bien.
Ça se passe plutôt bien. On va parler dans quelques instants de votre dernier combat, puisque vous l'avez gagné par KO. Souleymane, à quoi ressemble une journée à l'INSEP ? Puisque, en fait, vous êtes des athlètes de haut niveau, ce qui veut quand même dire que vous avez les cours et en même temps l'entraînement.
Ouais. Donc, il faut savoir qu'à l'INSEP, il y a le double projet, le projet professionnel, donc tout ce qui est études, etc., et le projet sportif. Donc, une journée type à l'INSEP, c'est de 8h à 10h, on a cours. Derrière, on a entraînement de 11h à 13h. Puis, on reprend les cours à peu près de 14h à 16h. Et derrière, de 16h30 à 18h30, on repart encore à l'entraînement. Donc, on s'entraîne deux fois par jour. C'est des journées super chargées. Après, il faut savoir qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour les athlètes, notamment au niveau de la récupération, au niveau des kinés, etc. Donc, il y a tout un suivi derrière qui est fait pour vraiment tenir une journée aussi chargée à l'INSEP.
Comment est-ce qu'on arrive à garder les pieds bien ancrés sur terre ? Vous êtes le champion de France en titre chez les moins de 69 kilos. On l'a dit, vous êtes quand même un jeune prodige de la discipline, hein, avec tous les titres que vous avez remportés. Champion du monde universitaire. Quel regard la famille porte sur tout ça ? Est-ce que c'est qu'un regard de réussite ou est-ce qu'il y a aussi un peu de protection, de méfiance ?
La famille sont assez fiers de moi parce que J'essaie quand même, en dehors du sport, de véhiculer aussi une bonne image, de ne pas lâcher les études, parce qu'ils y tiennent aussi quand même. Et puis voilà, moi, même par rapport aux jeunes du 19e, lorsqu'ils voient quelqu'un comme Jimmy Koulibaly, qui moi m'a beaucoup inspiré, et moi, etc., ça les motive. Il y en a pas mal qui viennent s'inscrire à la boxe, etc. Et donc, on essaie de rester comme ça. Je reste simple et le Suleiman de toujours, quoi.
Bon, bah alors ça veut dire qu'on vous aura dans une prochaine émission. La prochaine, ce sera après Rio, si vous ramenez une médaille. On prend le rendez-vous. Nordine, donc le dernier combat, c'était à Saint-Nazaire. Oui. Un combat donc professionnel, vous l'emportez à la 5e reprise par KO. Est-ce que la boxe pro est plus difficile que la boxe amateur? Est-ce que c'est différent? Comment vous vous êtes adapté?
On va dire que c'est pas plus difficile, mais c'est pas moins dur. C'est complètement différent de la boxe amateur à la boxe professionnelle. Dans la boxe professionnelle, on va demander d'autres qualités qu'on demande en boxe amateur. La boxe professionnelle, il y a plus de rounds, donc on va demander plus de résistance. Il n'y a pas de casque. Bon, même maintenant, c'est aujourd'hui, la boxe amateur est passée sans casque, mais moi, à mon temps, il n'y avait pas de casque. Donc, les gants sont plus petits. Les bandages, c'est des bandages durs, donc ce qui fait que les coups sont plus portés, étant donné qu'il n'y a pas de perte de force. Donc, un bon amateur n'est pas spécialement un bon professionnel. Et un mauvais amateur n'est pas spécialement un mauvais professionnel. Bien au contraire. Donc après, c'est tout dépend de la personnalité et aussi de l'assiduité sur de la boxe professionnelle, comme il y a beaucoup de rounds, parce qu'on peut aller jusqu'à 12 rounds. Et le tout, c'est pas de gagner les 3-4 premiers rounds, et puis se vider, et puis à la fin, on est fatigué, on n'arrive plus à garder la garde haute. Donc c'est vraiment un travail différent. En boxe amateur, c'est des 3 rounds de 3 minutes, très intense, mais il y a 3 rounds. Que chez la boxe, en boxe professionnelle, on peut aller jusqu'à 12 rounds, et 12 rounds, c'est long.
Nordine, si vous aviez un conseil à donner à Suleiman qui prépare les Jeux Olympiques de Rio, lequel ce serait ?
Mon conseil, il est simple, hein, qu'il reste soi-même, qu'il ne se mette pas de pression. Et je pense qu'il est dans la bonne voie, hein, il écoute, c'est quelqu'un d'attentif, qui s'entraîne sérieusement. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'il se pose des questions, mais qui croit en ses rêves et que tout est possible.
Allez, Suleiman, avant qu'on se quitte, quelques mots peut-être aussi pour tous ceux qui vous soutiennent et puis les enfants qui nous suivent aujourd'hui et qui découvrent vos disciplines.
Déjà, je suis très content de voir pas mal de jeunes ici. Il faut savoir qu'en dehors du sport, nous, ça nous aide beaucoup d'avoir du soutien, de voir qu'il y a beaucoup de monde derrière nous. Et donc, je leur dis, comme Jimmy l'a dit tout à l'heure, de croire en leurs rêves, de ne pas lâcher, de continuer, de persévérer et de ne pas négliger surtout les études. Parce que malheureusement, lorsqu'on vient des zones dites de quartiers populaires, etc., on a tendance à beaucoup négliger les études, à vouloir travailler assez vite. Donc de ne pas lâcher les études, de toujours persévérer dans ce que vous voulez faire.
Voilà. Nordine, pareil, un dernier mot. Vous allez persévérer pour le prochain combat, c'est les championnats de France, je crois, les championnats de France professionnels.
C'est bien ça, oui.
Alors un petit mot pour les gens qui vous soutiennent et qui nous écoutent aujourd'hui.
Donc, un peu ce qu'il a dit Suleiman, hein, c'est dans la vie, il faut croire en ses rêves. Et pour croire en ses rêves, il faut se donner les moyens. Et je pense qu'on se donne les moyens, on arrive. Tôt ou tard, même si on tombe, on se casse la gueule, on peut se relever. Et je pense que c'est l'assiduité et l'envie. Et je pense que tout est possible. Tout est à portée de main.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. On va rester assidus et on a envie de continuer sur Radio Déclic. Dans quelques instants, on va parler football, ballon rond et football féminin, puisqu'il faut quand même des filles pour parler sport aussi. Elles sont championnes et on va en parler dans quelques instants, juste après la pause musicale.
Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Maquillée comme à la crête, tout détonné, tout me plaît. Les mains sont livides, vides, vides. Mains sont livides, vides, vides. Le sol de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié. Ah, mes solitudes immenses, ton visage ne sera jamais entier. Comme tu regardes au dehors, j'emporte un portrait dévoré. Tout leur destin bord à bord. Kiss my station. Kiss my station. Ooh, 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 ooh. And if you say it's just one word, I'll stay with you. Kiss my station.
patience comme certitude, collier à trois fils, 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 lié à trois fils, fils, fils. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, pire, que tu respires, pire, pire. Partenaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace. Il faudrait que tu la portes loin, alors que d'autres renoncent. Je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Is my station? Is my station? And if you say just one.
De retour sur Radio Déclic et FPP le 106.3 pour une émission sportive. Et je vous le disais tout à l'heure, riche en émotions, on a parlé des Jeux Olympiques, on a parlé de boxe et on va parler maintenant de football. Le sport féminin n'est pas en reste dans la performance et on salue aujourd'hui celle qui a été réalisée par notre équipe locale, le Racing Club de Saint-Denis. Nos Dionysiennes montent en D2 et on va en parler avec l'entraîneur Hakoun Eric et le président du club Paul Maire. Messieurs, bonjour.
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 Merci d'être avec nous. Alors, défi championne en Seine-Saint-Denis, évidemment, ça nous intéresse. Comment est-ce que vous avez accueilli cet exploit et cette nouvelle de montée en D2, monsieur le président ?
Ben, du moins, c'est avec beaucoup d'émotion, puisque bon, on a fait un très très gros travail et depuis quelques années, donc depuis 1984 qu'on a créé l'association. On travaille dans ce sens pour essayer d'arriver au maximum. Et donc là, on est tout près du but, hein, parce qu'on n'est pas encore tout à fait en D2. Donc, mais on est déjà bien, très, très, très bien parti.
Alors là, vous ne pouvez pas vous rater, hein. Vous ne nous faites pas ça, vous y allez en D2, hein ?
Ben, on espère, il est là, donc l'entraîneur, pour faire tout le travail qu'il faut, de façon à les motiver, d'autant plus qu'on va rester presque un mois sans jouer. Donc, il faut remettre tout ça en place et pour qu'on puisse y aller.
Quelle place représente le sport féminin au club et en l'occurrence le football féminin ? Puisqu'on sait qu'à l'échelle nationale, ça prend une belle ampleur.
Alors, du moins, à l'origine, le club, il n'était pas tellement féminin, puisque, bon, il y a eu les masculins, il y a eu les garçons avant. Donc, on a toujours, de toute façon, les garçons. Hein, donc, une équipe senior et une équipe vétéran. Et on a pris cette option un jour où il y a des filles qui sont venues. Ils ont dit, bon, bah, écoutez, président, on accompagne nos maris, on accompagne les enfants, etc. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de créer une équipe de foot féminine ? Et là, donc, on a eu le soutien de la ville et on a créé tout de suite donc, cette équipe féminine qui, maintenant, aboutit à de très, très bons résultats. Et en passant de 40 adhérents masculins, on est monté maintenant à 160 féminines dans le club. Donc, ce qui fait qu'on a basculé... On est devenu plus un club féminin maintenant.
Pouvoir aux femmes, c'est bien de temps en temps. Voilà. Alors on va parler avec l'entraîneur. Comment est-ce qu'on entraîne justement l'équipe féminine ? Est-ce que c'est un objectif que vous vous étiez fixé dès le départ ?
Donc oui, pour mon arrivée cette année, j'ai rejoint le club. Donc moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le milieu féminin. Donc j'ai entraîné en première division à Strasbourg, en deuxième division. Donc le niveau, je le connais. La gestion des filles, je la connais. Donc c'est vrai que c'était un beau projet. Je pense que c'est une belle ville. Où on peut faire quelque chose, il y a un bel avenir dans ce domaine-là. Donc après, il y a des filles qui sont socialement différentes par rapport à ce que j'ai connu, hein, qui ne viennent pas du même milieu. Donc après, il y a une culture footballistique à leur apprendre, surtout à préparer pour le haut niveau, parce qu'on n'y arrive pas comme ça, donc il faut de la discipline, etc. Donc, mais elles ont bien adhéré, elles ont bien compris.
En tout cas, le message a l'air d'être passé. Est-ce que les filles du club à Saint-Denis, elles viennent pratiquer à la base, elles viennent pratiquer en loisir et elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient devenir championnes ou c'était un objectif de départ ?
C'est vrai qu'au départ, elles venaient pour s'amuser, pour se retrouver, voilà, rigoler, etc. Donc, sauf qu'après, à force de regarder et puis voir que le football prend de l'ampleur, le foot féminin, et que leur faire comprendre qu'elles avaient de grosses capacités et du talent. Donc après, elles ont bien pris part de ça et au final, ben maintenant, elles sont ambitieuses. Donc, il fallait leur faire accepter ça. Maintenant, elles vivent, elles dorment, elles mangent football. Chose qu'elles ne faisaient peut-être pas auparavant, puisqu'elles le prenaient plus pour un amusement. Aujourd'hui, elles ont vraiment envie d'aller, d'aller là-haut, voir ce que c'est, connaître. C'est, pour un sportif, c'est toujours voilà, c'est intéressant.
Alors justement, quel regard vous portez sur le circuit féminin, je dirais sur l'évolution du football féminin, puisque effectivement de plus en plus de licenciés féminines dans le monde du football. Et pourquoi vous avez accepté ce challenge à Saint-Denis?
Pourquoi je l'ai accepté? Parce que quand j'étais reçu par le président Paul Maire, le courant est bien passé. Son discours était plus qu'intéressant. Et puis la ville en elle-même, elle mérite. Parce que c'était quand même une grosse ville du 93, Saint-Denis, donc avec un gros potentiel. Donc c'est vrai que le challenge ne me faisait pas peur et j'avais envie de le relever. Donc aujourd'hui, ça ne se passe pas trop mal.
Qu'est-ce qui différencie, je dirais, les entraînements masculins et l'entraînement d'une équipe féminine?
Ça, c'est... On va rentrer dans le détail. Ouais, c'est technique, ouais. On va rentrer dans le détail, mais on en a pour une heure. Non, c'est...
Est-ce que tout le monde peut pratiquer le football féminin?
Il faut être beaucoup plus souple. Alors... pour essayer d'arrondir les angles.
Est-ce que le football féminin, est-ce que le football féminin est beau à regarder? Par exemple, les gens qui nous écoutent, c'est vrai que nous on a tendance à regarder moi je regarde un petit peu tout, mais en général c'est plutôt masculin comme sport. Est-ce que vous avez réussi à casser cette image? J'ai l'impression que oui, au vu du nombre de licenciés à Saint-Denis.
Le foot féminin, il est très porteur parce que quand on vient et qu'on vient voir un match de foot féminin, à la différence de chez les hommes, on n'entend pas de mauvaises paroles, il n'y a pas de triche. C'est du beau jeu. Il y a pas.
On est plus gracieux, c'est voilà. Ça en fait.
Et puis il y a moins de rapports physiques entre les dans des combats qu'on peut voir sur un terrain de foot entre des hommes. Donc c'est vrai qu'athlétiquement c'est différent.
Je vais me tourner vers le président Paul Maire. Quelles ont les premières réactions des filles lorsqu'elles ont appris qu'elles étaient quasiment en D2? Est-ce que c'était qu'est-ce qu'elles vous ont dit tout de suite et quel a été le message de votre part?
Ben, la première, c'était déjà la satisfaction d'avoir gagné déjà la sortie première de la poule. Ensuite, d'avoir gagné donc les barrages qui ont eu lieu samedi dernier. Samedi. Et donc, une très, très grande satisfaction parce que, bon, pour elles, parce que lui, Eric, il les fait travailler énormément. Elles ont travaillé, elles ont récupéré donc, ce titre. Et en fin de compte, pour elle, c'est une très, très, très grande satisfaction. Et puis, la première des choses, c'est, comme on dit tout le temps dans le vestiaire, c'est la prime. Donc, voilà, c'est la première des choses. Mais sachant qu'on voit que les clubs, les sportifs n'ont pas beaucoup de sous. Donc, voilà, donc elles sont là pour le sport, en réalité. Donc, très, très, très heureuses, en fin de compte, d'avoir remporté ce titre. Et aussi, le prestige... de rentrer chez elles et puis de dire à leurs parents que quoi que, si ça se trouve, on ira peut-être à Marseille l'année prochaine, ou à Lyon, ou autre, donc, pour jouer des matchs. Donc c'est surtout ça, quoi, qui est important pour elles.
Est-ce que vous avez l'impression, l'un et l'autre, d'avoir une mission, je dirais, dans les quartiers? Là, je parle de Saint-Denis, on a énormément de quartiers. Mm-hmm. On est effectivement dans le 9-3. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez aussi ce rôle-là de sortir des talents de nos quartiers?
Du moins, nous... La première des choses, c'était effectivement, quand on a créé l'équipe féminine, c'était de récupérer donc, toutes les gamines qui jouent, qui sont là, qui jouent dans la cité. On a eu énormément qui sont parties, il y en a deux ou trois qui sont parties au Paris Saint-Germain. Ce sont des gamines qui partaient à l'école avec leur ballon, etc. Donc on a récupéré donc, beaucoup de filles. On récupère toujours des petites, parce que nous, il ne faut pas oublier que au-delà de l'équipe qui va peut-être jouer un des deux, on a aussi des toutes petites de 8 ans, d'à partir de 8 ans, qu'on a donc du filles au foot, etc. Donc on a une formation tous les lundis, tous les mercredis, donc on entraîne ces petites jusqu'à l'âge adulte. Donc, et ce sont des filles qui sont issues de tous les quartiers de Saint-Denis, des écoles. On a même un collègue qui est avec nous, donc, qui s'appelle Franck Massico, qui est sur une école de Stein. Et dès que les enfants ils sont en difficulté scolaire, ils s'arrangent avec l'école pour nous les emmener, donc pour pouvoir suivre ces enfants, de façon à les faire rentrer dans un esprit de groupe, etc. Donc nous, on fait ce travail Et on continue de travailler là-dessus pour les enfants, pour les, surtout les jeunes filles. Donc là, je vois qu'il y en a pas mal. Je les incite à venir aussi directement déjà à Saint-Denis, s'entraîner avec nous. Donc il n'y a pas de problème.
Eric Hakoun, vous nous disiez tout à l'heure, vous avez l'expérience du football féminin, vous avez entraîné aussi la D1. Est-ce que vous avez l'impression qu'à Saint-Denis, il y a des vocations qui sont nées et qu'on peut aussi aller, espérer aller jusqu'en D1? Est-ce que c'est aussi le travail de l'entraîneur?
Entraîneur, oui, c'est un fait. Après, il faut avoir les infrastructures, on les a. Il faut après avoir les moyens de pouvoir y aller. Parce que si c'est y aller, histoire de dire qu'on y va, et puis qu'on... Excusez-moi, on passe pour des guignols, non et...
Vous êtes winner spirit. Là.
Oui, après, même de monter en deuxième division, c'est pareil. Il va falloir, bien se structurer, pas forcément que à travers les installations, à travers beaucoup de choses. Comme après, si on veut se projeter, la ville peut... Et se projeter éventuellement, et même sportivement, aller chercher, pourquoi pas la D1, mais après, vous ne recevez pas des équipes comme Lyon, avec des Jean-Michel Aulas et j'en passe, en leur donnant un petit sandwich ou autre. Non, ce n'est pas possible. Quoi.
On entend bien le message. Qu'est-ce que vous dites à vos joueuses dans les vestiaires pour les motiver et leur permettre de se dépasser? Quels sont les mots de l'entraîneur?
Il n'y a pas vraiment de vérité. Simplement, je prends les matchs par match et on travaille pour, on met des choses en place. Ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'elles prennent conscience de leur qualité et qu'elles puissent s'exprimer. Et après, mais dans un ensemble, pas forcément qu'individuellement. On n'est pas sur, comme à la cité où on prend le ballon, on dribble, on fait ce qu'on veut. Non, là, on est sur un grand terrain. Il y a une discipline sportive, il y a une discipline tactique. Donc, toutes ces choses-là, il faut leur apprendre et qu'elles le mettent en pratique, tous ensemble.
Messieurs, merci beaucoup d'avoir représenté le Racing Club de Saint-Denis. J'excuse d'ailleurs les filles, on salue leur performance, elles n'ont pas pu être avec nous puisqu'elles sont en train de s'entraîner en ce moment même. Et on espère pouvoir les recevoir prochainement après la validation de la fameuse montée en D2. Merci à vous d'avoir été avec nous.
Juste une petite précision, c'est que du fait de ces résultats, nous sommes toujours, sachant comme quoi que le sport, il y a eu des subventions qui ont été diminuées, tout simplement, on est à la recherche de partenaires qui pourraient nous aider pour atteindre notre but, pour aller encore plus vite. Quoi. Voilà,
le nerf de la guerre, on le sait, pour les associations, qu'elles soient sportives ou culturelles, c'est évidemment les subventions pour soutenir les athlètes, les structures, les formations. Donc le message est passé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je vous propose, avant de nous quitter, d'écouter un autre champion, pas n'importe lequel. Il s'apprête à revêtir un nouveau record. Mélonin Noumanvi, champion du monde de lutte. Il est de Bagnolet, Bajolut, les Diables Rouges, et on l'a rencontré ce matin. Écoutez. Bonjour Mélonin, et merci beaucoup de me répondre. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as découvert ta discipline, en l'occurrence la lutte?
Très jeune, à l'âge de 8 ans, à Bagnolet, toujours à Aurigonde. C'est mes frères avec mon grand-père qui m'ont emmené un mercredi, je crois, essayer la lutte.
Qu'est-ce qui t'a plu tout de suite dans la discipline?
Je pense tout de suite, c'est vraiment l'ambiance, cette ambiance familiale. En plus, quand on est jeune, c'est plus des jeux de lutte, des jeux de position. Donc, c'est ça qui m'a plu. En plus, c'est un sport de combat, mais on ne doit pas faire mal à son adversaire.
Est-ce que tu pensais que tu allais être le numéro 1?
Non, on n'y pense pas tout de suite. En tout cas, après, c'est sûr que c'est des choses qui arrivent au fur et à mesure. Donc, c'est des étapes qu'on passe. Il y a le premier titre de champion de France. Après, on se dit, on veut toujours aller chercher plus. Quand on commence un sport comme la lutte, on se dit pas tout de suite, un jour je serai tout en haut.
Qu'est-ce que le club de Bagnolet t'a apporté? Comment est-ce que l'encadrement avec Didier Dussault et les entraîneurs font que tu es resté à Bagnolet justement?
C'est parce qu'il y a toujours eu un soutien de leur part. Donc ils m'ont vraiment accompagné du début jusqu'à la fin. Ils m'accompagnent encore aujourd'hui. Après, c'est sûr qu'avec toutes ces années, on tisse des liens, on tisse des complicités avec tous ces gens, tous ces clubs, tous ces dirigeants et lutteurs d'ailleurs du club. Et puis quand on se sent bien, je pense que pas besoin de partir.
Est-ce que tu as conscience d'être devenu une référence dans ta discipline et un exemple pour les enfants qui pratiquent? Je sais qu'à Bagnolet, vous faites beaucoup de travail auprès des plus jeunes.
Oui, oui, après, c'est un statut moi qui me va très bien. Hein, et puis même au-delà de ça, par exemple, je suis ambassadeur aussi en Ile-de-France, du sport en Ile-de-France. Donc c'est souvent qu'on va rencontrer les lycéens, collégiens, même les primaires, pour les initier et aussi parler de notre vie de haut niveau. Après, c'est clair qu'au sein du club, quand on a un champion du monde ou même Steve, champion olympique, on a ce statut de essayer de transmettre, montrer l'exemple le plus souvent possible essayer de faire perdurer ces petites flammes maintenant les plus jeunes pour qu'ils arrivent jusqu'au niveau comme nous quoi.
Rio approche. J'imagine que tu te prépares pour y être et c'est ce qui manque, je pense, c'est une médaille olympique.
Oui, c'est ce qui manque. Mais bon, après, t'es sûr qu'on part dans un autre état d'esprit. Pas parce que je suis champion du monde, mais c'est qu'aujourd'hui, si j'y vais, ce serait mes quatrièmes Jeux Olympiques. C'est vrai qu'on attend toujours de performer, de dire oui. C'est vrai que c'est tous les 4 ans, donc on n'a pas le droit à beaucoup d'erreurs. Même pas le droit à l'erreur, d'ailleurs. J'ai toujours approché les Jeux Olympiques comme quelque chose de grandiose. C'est clair que c'est grandiose, mais dans le sport, sportivement, c'est pas plus dur qu'un tournoi ou qu'un, on va dire aussi, un championnat du monde. Mais on a les mêmes personnes et tout, et donc se mettre moins de pression là-dessus. Et j'y vais vraiment cool, quoi. Je me dis qu'aujourd'hui, et là par contre, le titre rentre dans le jeu, c'est vraiment que du bonus, quoi. Maintenant, c'est y a plus de je vais arriver à bientôt avoir 33 ans. Les Jeux Olympiques, si c'est sans médaille, ça sera tant pis, mais bon, c'est clair qu'on y va pour ça. Mais faut essayer de se détacher de tout cet effet médiatique, effet où je suis un petit peu favori du coup maintenant. Il faut pas se prendre la tête et on verra ce qui se passera, quoi.
Mélona Noumonvie, à l'instant, le champion du monde de lutte qui se prépare pour les Jeux Olympiques de Rio. Et bien voilà, c'est terminé pour nous et pour nos athlètes. Mais la suite des programmes, tout de suite, sur Radio Déclic FPP, c'est maintenant.
Radio Déclic 106.3, 106.3, 106.3. Radio Déclic 106.3, 106.3, 106.3.
Nous retrouvons Kevin pour ses news 100% sport, mais tout de suite un peu de musique avec We Are the Champion de Queen.
We are the champions. Les news de Déclic 100% sportif, c'est maintenant sur Fréquence Paris Pluriel. Vive les Bleus champions du monde! Les handballeurs français ont été accueillis sous une pluie de chants le lundi soir à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Innovation toute particulière a notamment été réservée par les 300 fans présents à Nicolas Karabatic et Thierry Omeyer, les deux leaders des experts. Dimanche soir, face au Qatar, 25-22 pays hôtes de la Coupe du Monde, la France a remporté son 5e titre mondial et son 10e titre international si on l'ajoute les deux couronnes olympiques et les 3 titres européens. Les experts deviennent surtout des habitués. À chaque titre mondial, les handballeurs français ont droit à leur réception à l'Elysée. Ce mardi, deux jours après leur 5e sacre planétaire à Doha au Qatar, les joueurs de Claude Onesta ont été reçus par François Hollande. Après les tennisman français à l'Open d'Australie ou encore la Coupe du Monde handball encore une fois remportée par la France, c'est au tour des rugbyman tricolores de nous faire rêver lors du tournoi des Six Nations 2015. Du 6 février au 21 mars, le Pays de Galles, l'Angleterre, l'Italie, l'Écosse, l'Irlande et la France s'affronteront sur gazon dans les pays participants. La compétition débute ce soir avec le premier match Pays de Galles-Angleterre à 21h05. Demain, la France connaîtra son premier match à domicile en rencontrant l'Écosse au Stade de France à 18h. Le 15 de France se rendra par revanche en Irlande pour son second match une semaine plus tard à la même heure, samedi 28 février. L'équipe de France reviendra en France pour affronter le Pays de Galles à 18h, tandis que le dimanche 15 mars, les joueurs seront confrontés à leur homologue italien à 16h. Quant à l'actualité sportive de Saint-Denis, le S2S Judo était présent à Villemonde samedi dernier pour participer au championnat de Ligue Senior de 2e division. Les Dionysiens ont su se montrer performants et ont fini 2e au classement, bien décidés à récupérer le titre de champion de Ligue obtenu en 2009. Le S2S a aligné une équipe de 5 combattants et un remplaçant. Le club de Saint-Denis a pu dominer ses adversaires sur un très bon parcours. Malheureusement, il n'est pas parvenu au bout de l'équipe rencontrée en finale, le Blanc Ménil Sport Judo. Une victoire avant le choc assuré de terminer en tête de sa poule, le Racing Club Féminin de Saint-Denis s'est fait peur ce week-end contre Reuil Malmaison, dernier au classement, 3-1. Dès la première minute, les filles d'Eric Hakoun concèdent l'ouverture du score sur corner. Sous les regards des jeunes spectateurs du club venus en nombre, les partenaires d'Ophélie Dabé, auteur de l'égalisation, reprennent alors les commandes de la partie. Finalement, Makoura Diabaté et Ludivine Blumberg donneront la victoire à Saint-Denis, permettant ainsi aux féminines de finir le championnat DH invaincu et de préparer au mieux la rencontre décisive de dimanche contre l'ES 16e. Le Super Bowl a toujours la cote. La diffusion de la finale de la compétition nationale de football américaine remportée par les New England Patriots face aux Seattle Seahawks a permis à la NBC d'enregistrer la meilleure audience de l'histoire de la télévision américaine avec 114,5 millions de téléspectateurs devant leur poste ce week-end. La chaîne bat son propre record réalisé l'an dernier avec le même événement. Quant au fameux concert de mi-temps du match, assuré cette année par la chanteuse Katy Perry, il devient le show le plus suivi de l'histoire du Super Bowl, avec 118,5 millions d'Américains qui ont suivi la performance de la chanteuse de Firework. Quant au match, Jeremy Lane, le cornerback de Seattle, s'est cassé le bras dès la fin du premier quart d'heure. Le joueur a dû quitter le terrain et suivre depuis les vestiaires la défaite de ses coéquipiers face au New England. Plaqué après une interception, Jeremy Lane a fait une mauvaise chute. Le footballeur est tombé de tout son poids sur son bras gauche qui s'est brisé dans l'action. Et c'était les news spéciales sportives de Radio Déclic. Rendez-vous bientôt.
Et bien voilà, Radio Déclic, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours. Restez à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3. L'émission qui suit, c'est L'Envolée.